RFI et France 24 présentent.
Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « L'endurance est la première vertu qu'apprend un conquérant ». Quelle joie que de recevoir aujourd'hui ce
chef de guerre en mission
qui officie dans le rap depuis plus de 25 ans. Attention.
Ouh, ça c'est pour tous les frères.
Vrai, je vous vois déjà sourire en voyant ce légendaire, véritable Highlander du game. Il est l'un des rares artistes à pouvoir se targuer d'avoir bercé de sa musique bon nombre d'époques, grâce à
la force mentale, déterre tel un camère.
Et nigérian, il peut aisément clamer
je traverse le temps dans ma soupe volante.
En réussissant, de surcroît, l'incroyable prouesse d'être intemporel, créant une fanbase d'une amplitude générationnelle impressionnante. Toujours sincère, il se raconte au fur et à mesure du temps. Honnêtement, scandant.
J'ai la musique pour évacuer ma rage de vivre, c'est ma psychanalyse, celle qui m'analyse quand je fais mal.
Alors ce narrateur du ghetto qui n'oublie jamais d'où il vient, en mode
j'ai grandi parmi les gouffres,
fait fleurir des roses sur des rochers.
Négro, j'écris la street en poésie.
Tantôt de façon consciente, en écrivant des phrases du genre
petit frère, deviens responsable, surtout garde espoir et ne choisis pas le chemin des armes.
Tantôt de façon virulente, ou certains de ses textes
c'est comme un flingue qui décharge sa colère sur l'oppresseur.
Ce qu'il faut retenir, c'est que cet homme est un
vrai de vrai, ne fait rien pour de faux.
D'ailleurs,
qu'un seul homme ose venir calomnier ma biographie.
Ouais, venez me voir et me dire que je ne dis pas des vérités. Il nous fait l'honneur de sa présence à l'occasion de la sortie de son double album, La vie du triple OG. Messieurs, dames, juste pour vous.
Une légende qui vient pour faire du carnage avec un flingue à baril et pas.
Alias le général.
Socrate iconique.
A.K.A. So. Alias monsieur McTayer. Coute ça.
Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit.
Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine.
Dernière couva, dernière que ça, derrière tout ça, y'a du bout. Dernière résoie, dernière lobsa, derrière tout ça, y'a le gouffre. Dernier petit, dernière playlist, derrière tout ça, y'a du stream. Derrière tout ça, y'a de la triche. Je suis dans le game pour éviter la street. Dernière
McTayer dans les studios de Légendes Urbaines. Socrate, bienvenue chez toi, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Plaisir.
Tu m'as mis des frissons, hein? Dans ta présentation.
Eh bien, écoute, ça me touche beaucoup parce que c'était un vrai challenge, tu vois.
Franchement, ça m'a fait quelque chose.
C'est sincère et plus que mérité, comme je le disais.
Merci beaucoup.
C'est toi qui nous as donné des frissons pendant 25 ans, tu vois.
Merci.
C'est vrai que j'ai retrouvé des sons que j'avais oubliés et c'est assez incroyable comme tu as traversé le temps. On va
merci.
En parler. Il y a un rituel dans Légendes Urbaines qui consiste à revenir sur le début. Aujourd'hui, on parle de Socrate. T'es né à Aubervilliers.
Exactement.
Tu es originaire du Cameroun, tout le monde le sait, mais très peu de gens savent que tu es aussi du Nigeria.
Exactement.
De par ta maman.
Exactement.
Pour moi, ça veut dire beaucoup parce que le Nigeria, c'est anglophone. Ta maman est venue vivre au Cameroun.
Exactement. Parce qu'il y a eu la guerre du Biafra à l'époque et mon grand-père, il est parti. Il est parti au Cameroun avec son frère et sa grande sœur. Et c'est comme ça que ma mère et ses frères et sœurs ont grandi une partie de leur vie au Cameroun.
Ton papa est arrivé à Marseille. Il travaillait
exactement.
Dans la marine marchande.
C'est
un marin.
Exactement.
Il y a un peu de marin d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a enseigné? Qu'est-ce qui t'a transmis comme valeur? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es devenu toi véritablement un citoyen du monde.
Mmh.
Tu bouges à droite, à gauche, tu t'es jamais vraiment limité.
Mmh.
Est-ce que le fait d'avoir un papa marin, ça te conditionne?
Oui, ça a conditionné ma jeunesse. J'ai toujours une relation, par exemple, avec ma mère où j'étais un peu comme son mari parce que mon père, il était en mer, ce qui fait que l'homme de la maison, en fait, vu que je suis l'aîné, c'était un peu
c'est
moi.
Toi.
Et donc, quand il revenait à la maison, c'était un peu genre comme la grande fête, parce que les marins, ils sont souvent des 6-7 mois en mer, et après, ils rentrent voir leur famille. Et je me rappelle que quand on pouvait pas aller en vacances, ben, moi, j'allais sur le bateau avec mon père, sur son travail, sur son lieu de travail, en fait.
D'accord.
Et en étant avec lui sur son lieu de travail... je traversais le monde, ça veut dire je connaissais tous les ports d'Europe. Et après, quand on quittait les ports d'Europe, on allait vers l'Afrique. Et là, l'ambiance de tous les marins, c'était justement d'acheter un maximum de choses. ouais. en Europe et après de le cacher sur le bateau. Et c'était comme la contrebande. Ouais. Et après, on le vendait et tout.
Quelles sont les valeurs principales que tes parents t'ont transmises dans leur éducation ?
La famille. Mmh. Quand on nous connaît, ben on sait qu'on est un clan.
Ouais.
Si une femme veut rentrer dans ma vie, elle sait qu'elle rejoint un clan.
Ouais.
On se laisse pas tomber. Je pense que c'est ma mère qui nous a vraiment inculqué ça, parce qu'on l'a fait vraiment souffrir avec mes frères. On a fait beaucoup de bêtises, on a fait vraiment des trucs de fou. Et en vrai, elle nous a jamais lâchés quelque part. Elle nous a jamais lâchés. Elle a jamais abandonné notre éducation, même quand on avait fait nos propres choix. Mmh. Et je pense que quand une mère ne lâche pas l'affaire, ça permet à une famille de continuer d'exister. Alors que lorsqu'elle abandonne, la famille, elle existe moins, on va
Bien
dire.
Bien sûr.
Voilà.
C'est le socle.
C'est le socle.
Je parle rarement de ce genre de choses, mais comme tu, c'est vraiment le symbole de ta résilience, parce que t'es quelqu'un de réellement résilient.
Ouais.
T'étais bon à l'école, ouais. mais la rue t'a alpagué.
Exactement.
Tu t'es retrouvé en prison.
Ouais.
Mais la prison, c'est le, ça a été aussi l'endroit où t'as appris à écrire,
Exactement.
Où tu t'es mis au rap.
Exactement.
Et à lire aussi, beaucoup.
Exactement. C'est pour ça que lorsqu'on a sorti nos premiers trucs, on avait une plume très poétique et très très mûre pour notre âge lors de notre premier EP. Et c'est vrai que c'est là-bas avec le concert, je l'ai toujours dit, le concert privé de IAM qu'ils avaient fait sur Canal. Ça a été une grosse gifle et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que je devais faire du rap et que je devais écrire.
Tu entretiens des liens d'amitié profonds avec des gens depuis très longtemps. Donc t'es à la fois bien avec les plus jeunes, les petits frères, mais t'es quelqu'un d'extrêmement fidèle. Et tu sais que c'est une émission collégiale et on fait profiter un petit peu. On fait pas profiter, on pose, on demande à des amis de poser des questions. Et c'était important que ce monsieur apparaisse dans l'émission.
Bonjour Juliette, El Général. Bon, tout d'abord, je voulais vous dire que déjà, je suis un fan de votre travail respectif. Je trouve que c'est mortel ce que vous faites pour le patrimoine, pour the culture, comme disent les Caraïbes. Souvent, on a des départs difficiles, mais comme tu le dis souvent, ce qui compte, c'est pas que le départ, mais c'est aussi l'arrivée. Alors, moi, j'ai une petite question pour les chefs de famille. Et quand je dis chef de famille, c'est au sens large du terme. T'en es où de ton marathon ? Parce que la ligne d'arrivée, ça fait longtemps que tu l'as dépassée. Allez, je vous embrasse et bonne continuation.
Mike d'Organize, qui est en direct de Las Vegas, comme tu qui est devant, je sais pas si c'est le César Palace, tu vois,
c'est le César,
qui vit sa meilleure life à Vegas, ok, ne nous fais pas un hangover, s'il te plaît frérot, mais c'est quelqu'un qui a été là vraiment
c'est une surprise,
depuis le début.
Ah lui c'est, voilà. c'est mon grand frère, là j'ai été ému de le voir, il a un grand rôle dans la vie de MacGregor et moi. Il nous a beaucoup aidés. Là, dans son message, je sens qu'il voulait me faire prendre conscience que n'oublie pas ton départ et regarde tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as fait. Essaye d'avoir un peu de gratitude.
Tu regardes jamais dans le rétroviseur, j'ai
voilà,
l'impression.
Voilà, c'est ça. Essaye d'avoir un peu de gratitude sur toutes les choses que tu as pu réaliser. Je le sens, là, dans son...
Bien
dans
sûr.
Son,
dans et son c'est ce son qu'il message. M'a dit au téléphone, en me disant, parce qu'en fait... Il est arrivé, mais largement au bout de ce qu'il voulait, bien plus. Mais il ne va jamais s'arrêter, en fait. Et tant mieux, d'ailleurs.
Ouais.
Donc, il demande, où vas-tu ?
Aujourd'hui, je représente la culture. Je le sais. Mmh. Avant, je ne le conscientisais pas. Et on est arrivé à un stade où personne ne savait qu'une génération comme moi, Booba, Rimka ou quoi, on allait encore rapper aujourd'hui. Personne.
Kerry.
Voilà, Kerry...
Lino.
Ouais, Lino. Il y a du monde.
Mais pas tant que ça, finalement, voilà, effectivement.
Voilà. Vous on n'est vraiment... pas beaucoup à être encore là, à être encore actif et à envoyer. Mm-hmm. Et je pense que maintenant, on sait tous d'où on vient, mais personne ne sait où on doit aller. Et c'est notre rôle aujourd'hui. Maintenant qu'on a des générations, on a des générations de petits frères de tout âge, et qu'on est encore là, frais, déterminés, on est obligé de maintenant jouer le rôle de... En fait, on sait tous d'où on vient, mais maintenant, il faut essayer de savoir où on va aller, et il faut donner ce chemin, cette feuille de route à nos petits frères culturellement et même en motivation, en tout.
Tu parles des petits frères, justement, parce que peu de gens savent à quel point... On ne construit pas une course de fond de 25 ans comme ça, sans des chutes, sans des grandes blessures. Et je voulais parler de Bigou, ton petit frère qui est décédé il y a une dizaine d'années maintenant.
Il y a...
9 ans, 10 ans ?
9 ans. 9 ans. 2015, ça fait 9 ans.
9 ans, paix à son âme.
Paix à son âme.
Ça a été une révolution dans ta vie, en fait. Bien sûr que la perte de quelqu'un, d'un être cher, de sa famille, c'est... Est-ce que ça t'a fait prendre conscience de la préciosité des choses ? C'est les morts violentes, en fait, changent réellement un homme ou une femme, en fait. Est-ce que ça t'a vraiment... J'ai le sentiment que ça t'a véritablement changé, en fait.
Ça a mis longtemps. J'ai fait plein de choses depuis sa mort et tout. Mais quand t'es pas ancré, c'est comme si t'as rien fait. Donc je pense que le travail... pour essayer d'en arriver là où j'en suis là tout de suite aujourd'hui, il a été très long. En fait, je suis passé par trop d'étapes différentes pour arriver à une genre de sérénité. J'étais pas serein, finalement, quand j'y repense. J'étais plus déterminé dans le travail. Je me suis instrumentalisé pour les miens. Je me suis utilisé comme une arme. Je me suis interdit de poser le genou. Parce que je me disais que si je posais le genou, ben, les autres, ils vont suivre. Ma mère a été aussi une femme très courageuse. Tu te dis que si la mère, elle arrive à garder le courage, ben, je suis obligé de garder le courage, puisque c'est elle qui a perdu son fils. Moi, j'ai perdu mon frère, mon ami, un jumeau, un truc comme ça. Mais ma mère, elle a perdu son fils. Donc...
Tu peux pas plier.
Voilà.
Et du coup, tu t'occupes. Tu fais plein de choses. Je pense, parce que, encore une fois, dans ce côté visionnaire, tu fais des vêtements, je pense à Untouchable. Tu fais ça avec John, notamment ton frère. Vous faites des prods en Chine, en Turquie, livraison à Paris. On l'imagine un peu comme du streetwear. Sauf qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, vous avez réussi à intégrer des milieux très fermés, du genre la Fashion Week, et vous avez fait les pop-up à New York, à Londres, en Paris. Et ça, peu de gens le savent, en fait, finalement.
Exactement. En fait, j'avais une marque street qui était Untouchable, que j'ai vendue selon les procédés de vendeurs de drogue. J'allais en Turquie, je travaillais dans les usines, je filmais les cartons, c'était comme si c'était des plots de bédo. Il y avait un gros camion qui venait dans ma cité. Tous les petits du quartier venaient, ils déchargeaient le camion et on les vendait, on snappait, tout le monde venait. C'était une grosse période. J'avais fait un freestyle avec mon numéro de téléphone. Tout le monde appelait sur ce téléphone et tout le monde venait acheter, tout ça. C'était une grosse époque. Suite à ça, j'ai toujours eu un goût pour la fashion.
Et pour le luxe, tu vois.
Exactement. Donc là, je décide de créer une seconde marque qui s'appelle Untouch.
Untouch.
Et maintenant, cette seconde marque, c'est une toute autre aventure. Parce que je voulais faire une marque de luxe. Je voulais la faire fabriquer premium. Je voulais créer des passerelles culturelles avec un milieu auquel on n'appartient pas. Donc, ça a commencé tout doucement en allant dans le deuxième arrondissement, en faisant les courses, en achetant les accessoires, en achetant les tissus, en achetant plein de choses. Et à partir de tout ça, commencer à créer des vêtements, des samples et tout. Jusqu'à la fin, j'ai carrément créé mon atelier qui s'appelait la Fabrique Parisienne. Et je fabriquais tous mes vêtements directement de cette factory que j'avais à Port-d'Aubervilliers.
Tu t'es expatrié. Ouais, il y a longtemps que tu ne vis plus en France.
Ouais.
C'était pour prendre du recul.
Prendre du recul, prendre conscience de tout ce que j'ai vécu dans la vie. Et je pense que c'est ce qui fait un peu le nouvel ADN que tu peux ressentir à travers l'œuvre que j'ai sortie là. Genre, quand tu entends l'ensemble des deux volumes, tu sens que c'est une nouvelle personne qui...
La vie du triple G.
Ouais, tu sens que c'est une nouvelle personne, en fait. C'est un nouveau... C'est, je pense que le fait de beaucoup voyager, de rarement être ici sur place, c'est ce qui m'a fait vraiment, au bout de plusieurs années, prendre le recul, avoir le temps de... Ce que disait Mike, le temps d'avoir de la gratitude sur les choses,
ouais.
De kiffer un coucher de soleil, de kiffer marcher à la plage, des trucs que je faisais pas, des trucs que j'étais un éternel insatisfait. J'arrivais même pas à... C'est une éducation de savoir prendre du plaisir.
Socrate, il est déjà l'heure de se quitter. Tu sais qu'on est suivi par
vite,
des...
Hein.
C'était un plaisir, en tout cas.
Ouais.
On est suivi par des centaines de millions de personnes dans le monde.
D'accord.
Quel serait le message universel que tu aurais à passer ?
Aujourd'hui, on vit dans un monde dangereux.
Ouais.
On vit dans un monde incertain. Donc, je pense que ce qui compte, c'est de vraiment passer du bon temps avec les gens qu'on aime. Il faut vraiment essayer de conscientiser les petites choses.
Être en conscience.
Être en conscience. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est la chose à la... C'est une chose pour laquelle il faut se battre, parce que c'est vraiment là qu'est le chemin de la paix, pour moi.
Je te remercie encore mille fois. C'était un bonheur de
Merci
te recevoir.
Merci à toi.
Je rappelle que La vie du triple OG, part 1, est déjà disponible. La seconde, à partir du 31 mai. Et voilà, petit bijou, vraiment. Allez streamer, acheter. Voilà, c'est que de la qualité, comme d'habitude, depuis 25 ans. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission, au cours de laquelle on s'est évidemment dit plein de choses formidables avec... Monsieur McTayer, alias Socrate, vous pensez bien, ça fait des années qu'on l'attend ici, là, on est content.
Mais finalement,
voilà, on l'a fait.
On appelle ça le temps de Dieu.
Exact.
Voilà.
Et il faut respecter. En voilà. Attendant, la famille, comme à l'habitude, paix, amour, lumière sur vous. One love, McTayer.
One love.
Pour accueillir les pleurs, un cœur pour assumer l'effort, avoir une cellule pour demeure. Imagine les USA qui face à l'Irak capitule. Imagine la peine capitale. Imagine moi plein de thunes. Imagine une arme de poing dans la main d'un enfant qui répond que sa mère est la femme battue du bâtiment. Imagine le poing d'un Schmitt sur la gueule à ton père, ta vie natale sans repère, un dollar qu'on intolère. Imagine verser une larme de bière pour les défunts. Imagine un jeune qui s'acharne pour parvenir à ses fins. Imagine un chef d'État d'Afrique qui trafique, troque sa patrie à l'Occident pour raisons politiques. Imagine la colère d'un nazi, l'euthanasie pour abréger les souffrances, les douleurs d'une maladie. Imagine la peur d'un père immature, une paire de gants de combat pour tous ces gars qui nous censurent. Imagine à quoi bon imaginer quand les jeunes de chez moi se tirent dessus pour un billet. Imagine ne jamais voir, mais à mes dépens j'ai vu qu'une pourriture pourrait me trahir pour un écu. Qu'un seul homme vienne me dire m'avoir jamais trahi, qu'un seul homme ose venir calomnier ma biographie. Imagine le prix du pétrole, la chute du CFA, révolté qu'à la parole, un concert de nations USA. Imagine la vie d'un malchanceux qui malgré sa chancelle en selle chevalier car chômé n'est pas mieux. Imagine ce fort besoin de fortune, ce qu'est le crime pour l'opprimé, puis les dures misères de ma commune. Imagine ce père smicard au salaire misérable, d'où ma vue horrible, paternelle d'une fille adorable. Je sais c'est triste, mais imagine un peu mon cœur entouré de conspirateurs. Ma vie n'aspire qu'à la rancœur. Imagine qu'en bas de mon immeuble, rares sont les jeunes aimables, et j'ai ce refus catégorique sur ces bavures intolérables. Imagine un Kosovar qui s'en sort la vie sauve. J'ai fait l'effort, mais la vie ne m'a offert que les flammes. Imagine ces chroniques sanglantes subies par les juifs, pour eux la haine est une soif, qu'un verre de sang serait jouissif. Imagine Mandela, 27 balais dans un trou, la colère qu'un insoumis ressent quand sa vie est sans un sou. Imagine que chaque jour ma haine j'évacue, car la vie dont j'ai rêvé n'a pas été celle que j'ai vécue. Imagine la vie d'un sans-abri privé de bien-être, toujours sous, sans jamais rien dans son assiette. Imagine avoir l'anti-gang sur le dos, les gangbangs sur un dos, un gang dingue sur un gars, avoir subi trop de ragots. Gros, imagine 45 jours au mitard, les pleurs, le sang sur les murs, signe d'un atroce séminaire. Imagine une France homogène où les gêneurs sont les mêmes, les gens morts sont les mêmes. Mec, j'ai trop peur pour ma môme. Imagine comment l'époque s'obscurcit, sa noirceur et sa misère font que le jeune du bloc s'endurcit. Imagine cette pluie ténébreuse qui tombe sur nos fils, cette nébuleuse de neige qui dans nos colisées nous pénalise. Imagine tandem au panthéon, Perestroïka dans les rangs, dominateurs sur le béton. Sur le béton. Sur le béton. Sur le béton.